France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Mon invité aujourd'hui est un chanteur qui écrit des romans et un romancier qui chante des chansons, deux passions parallèles qui conduisent la vie d'Yves Simon. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'artistes lui rend hommage en reprenant les Gauloises bleues, les merveilles de Juliette et d'autres refrains chers à nos mémoires. Une occasion pour moi d'accueillir Yves Simon et de remonter ensemble le temps. Il sera à ce micro dans quelques instants. Mais puisque nous sommes le 9 juin, jour de la Sainte Diane, commençons par rendre hommage à quelques prénoms féminins, comme aussi par exemple celui d'Arabelle.
J'emmène les gendarmes dans mon petit monde à moi pour leur tirer des larmes et profiter de leur émoi. J'invente des histoires où d'humbles brigadiers reviennent couverts de gloire et d'héroïsme et de laurier. Et les gendarmes dignes s'envolent heureux en portant la consigne avec eux. En dehors des chemins de la légalité, j'emmène les gendarmes et la marée chaussée. J'emmène les gendarmes et la marée chaussée. Écoutez, brigadier, entendez résonner et sonnez les clairons de la gloire. Regardez, brigadier, tous les anges ailés entonnez sous un ciel de victoire.
À pied, à pied, à cheval, en voiture ou en char triomphal.
J'emmène les gendarmes dans mon monde à moi, pour leur tirer des larmes et profiter de leur émoi. Je leur compte tant de contes qui sont si compliqués que dans le fil en fin de compte, les gendarmes sont bien emmêlés. Et quand revient l'aurore, béat soumis, je laisse les pandores endormis. En dehors des chemins de la légalité,
je les emmène tellement qu'ils peuvent plus la ramener. Et si tout partout on en fait tout autant, on sera débarrassé, chacun pourra chanter. J'emmène les gendarmes et la marée chaussée.
Et oui, ils emmènent les gendarmes, les frères Jacques, dans La Belle Arabelle. Justement, c'est le nom de cette opérette de 1956 créée au Théâtre de la Porte Saint-Martin autour du groupe Les Frères Jacques. C'est amusant d'ailleurs parce que cette même année, dans un autre théâtre parisien, à la Gaîté Lyrique, il y avait une autre opérette autour d'un autre groupe, Les Compagnons de la Chanson. Ça s'appelait Mini Moustache. Et si je vous le signale, c'est parce que j'aurai la grande joie la semaine prochaine d'accueillir ici Fred Mella, le chanteur, le soliste des Compagnons. Il a aujourd'hui 94 ans et il a bien voulu venir nous voir pour nous raconter quelques-uns de ses meilleurs souvenirs. J'ai envie de dire que c'est une émission quand même à ne pas rater. Électrique, c'est le nom de cette polka rapide, opus 492 de Carl Michael Zierer, par l'orchestre de la radio de Munich, sous la direction d'Herbert Mogg. Et puis, avant de retrouver mon invité, Yves Simon, je voudrais aussi vous dire, un peu tristement, que Marc Augeret, le chanteur Marc Augeret, nous a quittés. J'y reviendrai tout à l'heure à la fin de l'émission en écoutant une de ces belles chansons de Marc Augeret qui nous a quittés à l'âge de 86 ans.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Duterte, France Musique.
Mais pour l'heure, je vous l'ai dit, j'accueille le plus écrivain des chanteurs et le plus chanteur des écrivains. Il a publié beaucoup de romans, il a écrit de belles chansons que nous connaissons tous et auxquelles toute une nouvelle génération rend aujourd'hui hommage dans un album. Alors voilà, le micro est à lui aujourd'hui. C'est à vous maintenant, cher Yves Simon.
Merci de cet accueil. Central Park, y a des noirs portoricains qui ping-pong du style bang et puis frappent avec les mains. Manhattan, Manhattan, dans la 42e rue, y'a Ken Jerry et Sandra qui vendent avec leur charrette des bretzels et du coca. Manhattan, Manhattan, les sirènes de la police vous rappelle Klein et Bonnie, mais c'est pas du cinéma. Quand il frappe, c'est comme ici.
Simon.
Bonjour.
J'ai presque quelques scrupules à commencer l'interview à ce moment-là parce qu'il y a souvent des très beaux développements instrumentaux dans vos morceaux. J'ai l'impression que vous aimez bien quand ça joue
et pas seulement
quand ça chante.
Très juste. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à admettre que je serais peut-être un jour chanteur. La première vocation, c'est la musique. Quoi.
C'est la musique.
Oui, oui. Musique de film, beaucoup. Classique, quand j'étais petit. Quand il y avait la musique classique à la radio, donc évidemment quand j'étais petit, c'était un gros poste de radio posé sur un buffet. Et je mettais mon petit banc devant le buffet, donc pour être à hauteur du poste. Je prenais une fourchette, vous voyez, pour faire la baguette. Et puis je battais
et
la mesure.
Et vous battiez la mesure.
Oui, oui, il y avait un jeune Italien, Roberto Benzi,
qui était
14, 15, 16 ans, était chef d'orchestre, donc je me disais, voilà, je serai chef d'orchestre.
Ah, je serai Roberto Benzi. Ouais. Yves Simon, ce concert de 2008, il vient de sortir en CD, 10 ans plus tard, c'était le live à l'Olympia, donc c'était aussi les retrouvailles avec le public, ça a été un moment particulièrement intense, comme
on
dirait,
pour
vous. Ah
oui, vraiment. Ben, c'est pas pour me vanter, mais ils me l'ont dit eux-mêmes à l'Olympia. Ils me disent ce qui vient de vous arriver, ça arrive 2-3 fois peut-être par an. C'est-à-dire, les musiciens entrent, ils sont 4, et puis à un moment, ils se séparent 2 par 2 pour laisser une place au milieu. Donc, ils sont d'abord applaudis. J'arrive, applaudissements évidemment, et puis d'un seul coup, je vois les premiers rangs se lever. Et ça fait une vague humaine comme ça, c'est très beau à voir de la scène. Et puis comme à l'Olympia, le balcon est très très grand, et comme il est très grand, depuis le balcon, on ne voit pas trop ce qui se passe en bas par la scène. Et donc je me dis, oh là là, au balcon, ça va s'arrêter. Eh ben non, ça a continué.
Ça s'est propagé.
Mais alors, c'était incroyable. On ne s'y attendait pas une seconde, mais pas une seconde. Parce qu'à Paris, j'avais déjà fait l'Olympia, les gens sont un peu gavés. Condescendant, disant... Oh,
ils sont gavés, mais vous savez vous faire rare aussi.
Oui, aussi, oui. Alors donc, c'était 30 ans. C'est bah ce oui, que je dis ça, dans les voilà. premières paroles. Oui, oui. Putain, 30 ans, j'ai pas pu m'empêcher de...
30 ans sans concert?
Sans concert, oui, oui. 30 ans, c'était juste... J'ai fait des mini-concerts pour les sorties de livres à l'étranger. Ouais. Donc, ça a commencé au Japon, où j'avais fait déjà des tournées. J'étais donc bien connu comme chanteur. Et je me suis dit, je vais amener une guitare. Et puis, dans les conférences, je jouerai 4-5 titres, pas plus. Mmh. Et puis, comme ça marchait bien, j'ai fait la même chose à Istanbul, à Stockholm, à Rio de Janeiro, à São Paulo, tout. J'ai fait ça et c'était... très sympa de ne plus avoir de traducteur.
Ah oui, 30 ans donc pour revenir à l'Olympia, et puis encore 10 ans pour sortir le disque de
oui,
l'Olympia.
Oui, oui.
Vous voyez, quand même, quand je dis vous faites rare, vous, ah,
vous avez raison. Oui, oui, vous avez raison.
Pourquoi 10 ans?
J'exagère. Mais je ne sais pas, parce que je voulais refaire l'Olympia 2 ans après, tellement ça avait été, comme je viens de vous le raconter, formidable. Avec mes musiciens, on se retrouvait une fois par mois pour garder le contact, pour reparler de notre Olympia et du futur Olympia, etc. Et puis à un moment, les choses un peu se détachent comme ça.
Voilà. En tout cas, on est très heureux que ce disque sorte aujourd'hui avec un autre disque dans le même coffret, si on peut dire, qui est une série d'hommages, de reprises de jeunes chanteurs. On va en parler tout à l'heure de vos grands tubes et aussi d'autres chansons moins connues. Voilà ce qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Mais bah, voilà, vous avez dit que vous vouliez être chef d'orchestre, alors j'ai envie qu'on remonte un peu dans le temps, en commençant justement par quelques impressions très poétiques et très classiques qui remontent au temps de votre enfance.
Thank you.
Brigitte Ingerer qui joue cette merveilleuse mélodie hongroise de Schubert. Oui, je disais musique d'enfance, Yves Simon, parce que moi j'imagine en écoutant ça une grande étendue gelée, couverte de neige dans les Vosges, mais je pense que c'est pas spécialement ce que vous écoutiez à l'époque, mais vous aimez cette musique.
Non, ce que j'écoutais à l'époque, maman m'avait abonné à la guilde du disque,
ah oui,
donc on recevait par moi un album et un disque. Celui que j'ai retenu de l'époque, c'était un Beethoven. Beethoven, c'était la sonate pathétique. Et alors, comme j'étais interne à ce moment-là, le week-end, je venais à la maison et je mémorisais à peu près toute la sonate pour me la remémorer quand j'étais seul à l'internat qui était pour moi une prison.
Mais ça montre en tout cas ce qu'on voit d'ailleurs dans vos livres, c'est cette présence très attentive de vos parents à votre être, à votre éducation, à votre formation, alors même qu'ils étaient d'un milieu très simple, comme
on
dit.
Oui, il n'y avait pas de livres à la maison, très peu de disques, sinon les livres de la guilde.
Oui.
Mais j'ai eu un tourne-disque après avoir eu les disques de la guilde.
Ah oui, c'est ça.
Oui, oui.
Et alors, donc, Schubert, pour vous, c'est quoi cette mélodie hongroise?
Ah, c'est alors... J'ai écrit une pièce de théâtre il y a 5-6 ans, je sais plus quand, qui a été présentée uniquement parce que je m'en suis peu occupé à Paris. Elle a été en Belgique, à Bruxelles, au Théâtre Royal du Parc. Et cette mélodie hongroise, il y avait 3 actes dans ma pièce qui s'appelle « En attendant la guerre ». Et entre chaque acte, il y a cette musique et je trouvais que ça correspondait... Vous parliez tout à l'heure d'étendue neigeuse, et c'est pas du tout ça le sujet de ma pièce, mais ça va avec tout parce que ça fait battre le cœur une mélodie comme ça.
Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors revenons un tout petit peu au Vosges, Yves Simon, parce que vous avez grandi à Contrexéville, donc c'est la partie pas la plus montagneuse des Vosges, mais c'est quand même un climat très très rude.
Ah, le climat rude, hein. Moins 25 parfois l'hiver. Oui.
Et puis c'est pas très loin non plus d'un endroit qui est important pour les musiciens et qui a été un peu marquant pour vous, c'est Mirecourt.
Mirecourt, oui, oui. C'est là que j'ai acheté ma première guitare, enfin qu'on a acheté ma première guitare, une guitare espagnole. Ce qui m'a frappé, alors c'était une capitale de lutherie, hein,
oui, c'est ça,
donc
oui.
Mirecourt, oui, oui. Mais une des principales de France, hein, oui, même, oui, oui, oui. Pour les petites Vosges qu'on a, c'était plutôt bien. Et alors ce qui m'a frappé en allant dans l'atelier des luthiers, c'était une carte étalée du monde, donc avec les continents, et plein de petites pointes rouges plantées. Alors je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est là qu'on a des clients. Donc j'ai 13 ans, donc il y a déjà vraiment longtemps. Je pensais Japon, Amérique, New York, Tokyo, c'était incroyable. Ils vendaient des violoncelles, des basses, évidemment, contrebasses et des guitares espagnoles. Et un ami m'a offert une guitare, et c'est ma première guitare. J'ai acheté ma première guitare électrique à 15 ans en étant serveur de restaurant. J'ai pu m'acheter cette guitare, oui. Mais j'ai débuté sur une guitare espagnole.
Encore une dernière chose des Vosges, mais vous l'avez beaucoup évoqué dans Un homme ordinaire. Votre père, on parle beaucoup des chemins de fer en ce moment, et les chemins de fer sont très importants dans ces régions de l'Est, sillonnées par les petites lignes. Lui était justement cheminot.
Il était cheminot, oui. Ouais. Alors... Quand j'avais 8 ans, 9 ans, quand on me disait « qu'est-ce qu'il fait ton papa ?», je disais « il a SNCF », je disais pas cheminot, je trouvais que ça faisait un peu pas formidable. Quoi.
Ah oui.
Et donc je disais
«
il travaille à SNCF » et je trouvais ça bien, Société Nationale des Chemins de Fer Français. Et voilà, et maman était serveuse de restaurant d'abord, quand on est venu dans cette petite ville. Et ensuite, elle a voulu faire des études d'infirmière, elle est devenue infirmière.
Voilà. Et vous leur avez rendu ces beaux hommages au fil de vos écrits.
Oui.
Mais,
alors, surtout maman, parce que papa est mort quand j'avais 20 ans. Donc, il n'a pas disparu des radars. J'ai rêvé de lui pendant encore 10 ans. Mais maman est restée vivante. Elle est morte tout simplement il y a un an. Et à 93 ans. Et souvent, des journalistes me disaient, tu parles souvent de ta mère, mais rarement de ton père. Sous-entendu, t'aurais honte ou je ne sais pas. Ben non, c'est parce qu'il n'était pas présent. Ah oui. Il n'était plus présent. Je me dis, faut absolument que je lui rende hommage. Et donc, j'ai eu cette opportunité d'une jeune éditrice qui avait l'idée, comme la lettre à mon père de Kafka, qui proposait à des écrivains dont j'étais dans les premiers, enfin, de faire une sorte de lettre à mon père, c'est-à-dire un texte court et dans un petit format qui est sorti aux éditions de Nicole Lattès.
Nicole Lattès.
Je me dis, voilà, c'est l'occasion de rendre hommage à mon père.
Et quand on habite Contrexéville, en général, quand on veut devenir artiste, on monte à Paris, mais on commence par monter à Nancy.
Oui, oui, avec, c'est plus près. Oui.
Voilà, avec des ambitions de rocker et une guitare.
Donc. Oui, c'est ça. Non, alors, à Contrex, on jouait au casino. Donc au casino, alors plus de ça, c'est 15 ans. Mais à 22 ans, j'avais déjà composé des chansons et Gilbert Bécaud est venu chanter en vedette, quoi. Il y avait 1500 personnes et j'étais en première partie et il est devenu mon parrain à la SACEM. Et 8 jours plus tard, Jacques Brel était au casino de Vittel et j'ai recommencé. Donc quand même, je les ai connus les trois, c'est-à-dire les grands B de la génération d'avant la mienne, c'est-à-dire Brel. Donc on s'est revus une fois à Genève, on a été après le concert au nightclub, ça s'appelait comme ça à ce moment-là. Et quand on arrive dans le nightclub, il y a la chanson « Ne me quitte pas » qui est chantée par Nina Simone. Oh, et c'est très émouvant
sublime,
et je regarde Brel et il a vraiment, il pleure pas mais il a les yeux embués, c'était très émouvant. Et puis, oui, Brassens, que j'ai donc plutôt
mieux connu
alors, puisque je suis resté quelques semaines avec lui à Bobino. Et puis, alors, je crois avoir vu qu'une fois dans ma vie, me semble-t-il, c'est en faisant une émission de télé, il est venu me voir dans ma loge, c'est Ferré. Et Ferré, il avait un blouson de cuir, alors qu'il avait déjà 60, 65 ans, les cheveux... Une tignasse, quoi, grise, comme on a vu sur la fin. Il avait un petit blouson de cuir, vraiment à la mode, et qu'on met à 35 ans. J'oserais plus le mettre aujourd'hui. Et alors, il vient vers moi. Je vois ce petit blouson de cuir. Je me dis, puis il était en jean noir, mince, belle silhouette. Et quand il repart, évidemment, il se retourne. Et derrière, c'était marqué « Je t'aime », avec des paillettes brillantes. C'était magnifique pour cet homme déjà vieux. Pour moi, j'avais 40 ans à l'époque, ou 35. Je me dis, il est bien quand même.
Alors, on va franchir un peu les étapes et on va vous retrouver à Paris, là, en 1967. C'est l'année où vous enregistrez votre premier disque. Alors, le mieux, je crois que c'est qu'on écoute la chanson et puis après, on la commentera.
On l'écoute quand même, en entier.
Ah, vous hésitez, hein. Moi, je l'aime bien. C'est votre période Adamo, on va dire.
Oui, d'accord.
Ne t'en fais pas, petite fille, si dans le mariage de tes rêves tu te voyais en robe longue avec un immense cortège. Ne t'en fais pas, si y'a que nous deux un après-midi à 5 heures pour dire je t'aime devant le bon Dieu, pour mettre un ruban à nos cœurs. Y aura toujours dans les bois un peu de mousse pour toi, et y aura sous les tilleuls de l'ombre pour nos petites gueules. Ne t'en fais pas si en sortant les grandes orgues sont des sorties, s'il n'y a que 2 ou 3 copains avec des gens de la famille, pour te crier vive la mariée, vive la belle qu'elle est jolie, pour entonner la marche nuptiale comme dans les belles cérémonies. Dans les bois, un peu de mousse pour toi, et y aura sous les tilleuls de l'ombre pour nos petites gueules. Ne t'en fais pas si sur le soir on ne prend pas le train pour Venise, si je t'emmène tout juste faire un tour, prendre un petit café chez la Louise. Ne t'en fais pas si le baldaquin que je t'avais promis est en balade, dormiras sous les étoiles, les oiseaux te feront l'aubade. Car y a toujours dans les bois un peu de mousse pour toi, et y aura sous les tilleuls de l'ombre pour nos petites gueules.
« 1967, ne t'en fais pas, petite fille, Yves Simon », alors tout jeune, à ses débuts, je disais « Période Adamo », cette chanson-là, je ne sais pas, mais c'est vrai que vous l'avez beaucoup admiré à vos débuts, Salvatore Adamo.
Oui, j'adore Adamo, parce que déjà, il est, en France,
d'ailleurs,
il était le seul de ma génération, Hein, Adamo, il a été célèbre à 17 ans.
Oui, c'est
à
ça.
L'époque, j'en avais 16, quoi. J'ai un an de moins que lui. Donc, je l'admirais. Et puis, sont arrivés très vite les Beatles.
Ouais.
Donc, la première fois que je vois Adamo dans un studio de radio à Paris, quand j'ai sorti déjà au Pays des Merveilles de Juliette, je lui dis... Alors, il est très surpris et agréablement surpris. J'ai dit, tu sais, si je chante, c'est grâce aux Beatles et à toi, tout simplement.
Voilà. Mais il faut rappeler, d'ailleurs, je ne sais plus, en 64 ou 65, j'avais vu, Adamo avait vendu autant de disques dans le monde quasiment que les Beatles.
Justement. Ah oui, c'était oui, oui. Ah, oui, c'est énorme. Il est énormément connu au Japon, en Amérique du Sud. Il fait plusieurs représentations dans les pays Argentine, Lima, tout ça. Il y a 10 000 personnes.
En tout cas, donc, je disais, vous êtes monté à Nancy, puis de Nancy à Paris, avec à la fois des ambitions cinématographiques,
plutôt,
littéraires
oui.
et musicales, tout ça un peu mêlé, on peut
mélangé,
dire.
Tout ça mélangé, oui. Hein, je pense que peut-être on a été tous les deux comme ça. Je me suis dit, le cinéma, l'avantage, c'était l'IDEC. IDEC, Institut des Hautes Études Cinématographiques, aujourd'hui la FEMIS. Je me suis dit, je vais prendre ça parce que ça n'existe qu'à Paris.
Ouais.
Et je vais avoir une bourse de grande école. Ça avait le statut de grande école.
Ça vous permet de vivre en étudiant.
Et donc, ça a été l'idéal pour venir déjà à Paris à 20 ans. Et puis, d'avoir un peu d'argent quand même. Et puis, à la fin de l'école, je me dis, je vais pas faire du cinéma à 21 ans. Enfin, être réalisateur de films, c'est pas possible. Il faut de l'argent, faut connaître des gens, des réseaux, etc. Je me donne 30 ans comme limite.
Ah ouais.
Et je me dis, pendant 30 ans, je vais pas rien faire en attendant de faire du cinéma. C'est là que je pousse quand même la chanson que j'avais
mais
déjà.
Au point de faire un disque, alors en 67, très jeune. Alors comment vous êtes arrivé chez Fontana?
Alors là, c'est autre chose. C'est le jeu de la chance. Figurez-vous que quand je suis arrivé à Paris, c'était en 64, et j'étais repéré par un directeur artistique qui était celui de Gainsbourg, Nougaro et Barbara.
Ah oui.
Quand j'ai signé mon contrat un ou deux ans plus tard, il a organisé une soirée chez lui avec les trois que je viens de nommer, et je me dis, ça démarre bien quand même, c'est vachement bien. Et oui, alors j'ai fait un premier disque en 67, oui, vous avez raison, c'est la bonne date. Et ça n'a pas marché. 1500 disques, donc je suis un peu fragilisé dans la maison de disques qui m'a signé. Et ils me disent, on va interrompre le contrat, mais on t'aime beaucoup et tu vas continuer à travailler, si tu le veux, dans le studio, un studio pour les artistes, pour s'entraîner, etc.
Voilà, pour pouvoir monter des chansons,
et avec un ingénieur
etc.
du son.
Ah, oui,
et c'est comme ça que je n'ai plus chanté comme Adamo. J'ai fait des tests et puis je me suis dit, je compose les Gauloises Bleues. Je me dis, on fumait les Gauloises Bleues. Il n'y a pas besoin de crier pour chanter la chanson. Et j'écoute après ce que j'ai fait. Ah, je me dis, là, ma voix passe. C'est drôle, hein, c'est la même voix, mais chantée différemment. Il y en a une qui passe pas la rampe, hein. Elle imprime pas, quoi, comme on dit aujourd'hui. Et quand je chante doucement, ça imprime. Et donc, je chante comme ça.
C'était pas un peu l'influence de Gainsbourg aussi?
Ben un peu.
Un peu.
Je me dis, c'est possible de chanter aussi des chansons parlées. Là, elle était chantée, mais Juliette, au Pays des Merveilles de Juliette, c'est parlé.
Bien sûr.
Donc,
mais il était un des premiers à oser faire ça aussi.
Oui. Puis ça me plaisait l'idée de dire des textes aussi. Ça ressemblait plus à de la poésie, bien que les chansons soient aussi souvent de la poésie, que ce soit Gainsbourg ou quelques autres.
Mais... Et aussi, citons-le, parce que c'est peut-être pour vous le vrai modèle de cette époque-là, c'est Bob Dylan.
Oui. Dans le disque que vous avez de l'Olympia, je fais une longue chanson avec une longue intro plutôt qui s'appelle Les bords de la Moselle, donc une région que vous connaissez bien.
Oui.
Et pendant cette intro qui est sur un même accord, je rends hommage aux quatre, il y en a 10 ou il y en a 20, qui m'ont donné envie. Ça, c'est important de rendre hommage en littérature pareille. Et là, je fais un extrait de Brassens d'une chanson qui s'appelle Les Passantes. Ensuite, un extrait d'une chanson, la chanson de Prévert de Gainsbourg, donc « Je voudrais tant que tu te souviennes », c'est magnifique. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Et puis un extrait des Beatles, « Love Me Do », très, très populaire. Et voilà.
Alors on écoute, justement, on se retrouve à la même époque, un an après votre premier disque, 1968, un de vos maîtres, vous l'avez dit, c'est Gainsbourg ici, avec Brigitte Bardot.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment a-t-il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer.
Voilà, c'était le petit coup de chapeau à Gainsbourg, Yves oui. Simon, mais aussi parce que c'est tellement, tellement fort les arrangements de Michel Colombier ouais. dans cette chanson de 1968. Vous l'avez connu, Michel Colombier?
Michel, je l'ai connu, figurez-vous, à Los Angeles, où il avait émigré après avoir fait la dernière musique du film de Jacques Demy, qui s'appelle Une chambre en ville. Et c'est donc plus Michel Legrand, mais Michel Colombier qui fait la musique. Et on se retrouve à Los Angeles, je ne sais plus qui est l'intermédiaire entre nous, mais toujours comme ça, à l'étranger, les colonies françaises ou autres se connaissent très vite. Et Michel, un jour, on était dans Los Angeles dans sa voiture, grosse limousine, qui tanguait comme ça, comme toutes les grosses bagnoles américaines de cette époque. Et il me fait entendre Kiss Jarrett, que je ne connaissais pas. Et il me dit, si tu veux le connaître, moi, je travaille des fois avec lui. Et puis, Wayne Shorter aussi, qui faisait partie donc de Weather Report.
Oui.
Et la même semaine, je vais chez Quincy Jones, là encore, que je ne connaissais pas. Et ce qui me frappe, c'est qu'il est midi et sa femme ou sa petite amie me dit, oh, il est encore au lit. D'accord, c'est bien. Et on a pris le petit déjeuner ensemble à midi. Voilà, c'est pour l'anecdote, c'est pas mal. Et Michel, dans la voiture, me fait écouter donc un Kiss Jarrett qui s'appelle Harbour Zena. Et c'est comme ça aussi que je suis devenu fan de Kiss Jarrett. Alors, ça, c'est pas au piano tout seul comme le concert de Cologne. Ouais. C'est orchestré.
Bien sûr. Alors là, vous avez cité quand même en peu de temps donc Michel Colombier, Quincy Jones. Je sais que vous n'aimiez pas longtemps, ça a peut-être changé, mais c'est un métier que j'admire beaucoup, moi. Mais le mot, le terme d'arrangeur,
non,
qui est si important dans la chanson.
Je n'aime pas. Je préfère le mot de producteur à l'américaine.
Oui. Producteur artistique.
Avec donc, Jean-Claude Dequin, avec qui j'ai fait 10 ou 11 albums.
Oui.
On était co-réalisateur ou co-arrangeur ou co-producteur de toutes mes chansons, parce qu'on les travaillait en amont tous les deux pour les musiciens, pour les choix rythmiques. On travaillait beaucoup sur le son.
Voilà.
Je donne un exemple au Pays des Merveilles de Juliette.
Justement, par exemple,
je la compose très vite à la sortie d'un film que j'avais tourné avec Juliette Berthaud, donc qui à l'époque était l'égérie de Godard. Et je vais chez Jean-Claude, disons le mardi soir, on enregistrait le mercredi. D'habitude, on préparait très longtemps. Et là, je voulais l'enregistrer très vite parce que je me dis, cette chanson est formidable, j'étais fier de moi. Et donc, c'est lui qui trouve cette idée que les chœurs, le refrain « Maman, on va cueillir les pâquerettes », c'est pas des voix de femmes, c'est des voix d'hommes en tête.
Mais très, très
et oui, tête, et avec trois voix, c'est magnifique, voilà.
Ah, c'est très réussi, mais c'est la preuve donc qu'on peut faire des grands succès, des petits chefs-d'œuvre comme ça.
Oui, comme ça.
Pour le plaisir, facilement. Oui. Et puis parfois des choses auxquelles on a beaucoup travaillé.
Oui, j'ai écrit les paroles de la chanson. J'avais écrit la musique ou la rythmique en sortant du... L'histoire, c'est ça. C'est un tournage qui se termine. Un dîner de fin de film, ça s'appelle. Et Juliette Berthaud arrive avec une mini-cassette où elle joue pour sa petite nièce, Alice au Pays,
des Merveilles. Voilà.
Et je me dis qu'on s'est tous pris une claque parce que elle chante, c'était une comédienne, elle chantait, elle riait, elle pleurait, c'était très très fort. Et je me dis, un instant comme ça, c'était pas ma manière d'écrire des chansons jusque-là. Et c'est comme s'il y avait une écorce qui s'était ouverte. Et je me dis, cet instant-là, j'ai envie de le rendre, pas universel, mais il est presque devenu universel. C'est sorti aux États-Unis, partout.
Le succès est arrivé tout de suite pour cette chanson ?
Pratiquement. Un mois après, était numéro un d'une grande radio. Oui.
Voilà, on va le réécouter pour le plaisir, parce que moi, c'est toute mon adolescence et j'adore cette chanson.
Vous marchiez, Juliette, au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait alpagué de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
C'est parfait, c'est
oui,
beau.
Oui, rien à dire. Elle se termine sans chinte, hein.
Voilà.
une note de basse.
Alors, ouais, c'est toujours intéressant de raconter comme ça l'histoire des succès, Yves Simon. Donc, tout ça s'est fait donc en studio assez rapidement,
oui.
Piste par piste, avec André Ceccarelli à la batterie.
André Ceccarelli, c'est pas mal non
oui.
plus.
Hein?
La prise de basse, on est trois. C'est-à-dire André Ceccarelli à la batterie, un bassiste, c'est une contrebasse, c'est pas une basse électrique, et moi, la guitare rythmique qu'on entend dès le début. Et alors, évidemment, j'étais à côté de deux pointures de l'enregistrement, et
ouais.
moi, je faisais peu, et il faut être très concentré
ouais.
pour garder le rythme, et puis pas louper une mesure. Pas... Alors, je me disais les paroles à l'intérieur pour me repérer, tout ça, et... Voilà, on a été jusqu'au bout. Je crois qu'on a fait qu'une prise, ou peut-être deux, je ne sais pas.
C'est...
Et puis après, en re-recording, donc je refais la voix. Et la voix, alors là aussi, il y a un truc intéressant, c'est là que le jugement des autres, tout ça. J'avais un directeur artistique chez RCA, et Jean-Claude de Quéand, avec qui j'avais préparé la chanson, me disait, chaque fois que je faisais une prise, on a fait peut-être quatre ou cinq prises de voix, c'était... le moins d'émotions possible.
Ah oui.
C'est-à-dire le plus centré.
Ah oui.
Hein, vous marchiez, Juliette, au bord de l'eau. Puis chaque fois qu'il y avait un petit « Vous marchiez, Juliette, au bord de l'eau »,
il me dit « Fallait pas, fallait gommer. »
Allez, recommence. Donc c'était comme ça. Et je crois que ça a fait partie aussi du... du succès.
Jean-Claude Dequéan, donc, vous l'avez déjà évoqué en disant qu'il était co-réalisateur de toutes vos chansons de l'époque. Vous vous étiez rencontré comment? C'est qui exactement Jean-Claude Dequéan?
Jean-Claude, je l'ai rencontré par la fille avec qui je vivais à ce moment-là, qui était choriste, qui avait fait la maîtrise de l'ORTF.
Et bien sûr.
Donc, elle faisait des chœurs une fois qu'elle a eu 18 ans, qu'elle a quitté la maîtrise. Elle faisait des chœurs dans les séances d'enregistrement. Et Jean-Claude faisait pas mal d'arrangements à ce moment-là pour d'autres, y compris pour lui. Et elle a travaillé pour lui. Elle l'a trouvé sympa. Elle me dit, c'est un risque parce que il était un peu variété quand même. Uh-huh. Elle me dit, commence par deux ou trois titres et puis si ça te convient pas.
Et vous, vous vouliez plus pop que variété?
Ah bah oui.
Oui.
Ah bah oui,
c'est
oui,
ça.
Oui, 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 oui. Donc,
qu'est-ce
qu'on
pas
peut faire de moderne ensemble, Et je crois qu'on s'est pas trompé. Après, on a continué pendant, je vous dis, 12 albums, 11 albums.
Exactement.
Et il a toujours eu du
goût. Il est aussi, il faut dire, le compositeur de Libertine.
Oui.
De Mylène Farmer.
De Mylène, oui, oui, bien sûr. Il a gagné beaucoup de droits d'auteur avec ça, oui.
Bon, en tout cas, voilà, c'est une très belle chanson qui vous a évidemment donné envie de continuer. On évoque, de continuer ensemble tout de suite, le tube, l'immense tube qui va suivre, alors qu'il y a une source personnelle, c'est les voyages évidemment en Amérique.
Ben oui.
On a déjà eu Manhattan tout à l'heure.
On a commencé
là,
par Manhattan.
C'est
oui.
vraiment New York,
oui,
j'ai rêvé New York.
C'est ce que j'ai rapporté dans ma musette, parce voilà. que j'avais un sac à dos et une petite musette sur le côté. Donc j'ai traversé les États-Unis en stop, ça, vous le savez. Et oui, à la fois j'étais comme une éponge. Comme un journaliste, je respirais. Alors, j'avais pas de guitare. Alors, je composais des chansons sur les musiques des autres que j'avais en tête. Par exemple, une chanson, elle est pas très connue maintenant, mais c'est une chanson magnifique, Hollywood, de David McNeil. Ma mère dansait dans les bars, imitant Jean Harlow. C'était une chanson que j'adorais et j'ai refait une chanson avec d'autres mots sur cette musique quand j'étais au bord des autoroutes.
Mais il faut préciser que, en fait, J'ai rêvé New York, ça a été aussi à l'origine un projet de comédie musicale qui n'a jamais vu le jour.
Exactement.
Après le succès de Juliette.
Voilà, je reçois un coup de fil
donc,
un matin. J'habite le 18e à ce moment-là. On me dit, vous n'écririez pas une comédie musicale? Ah, je dis, mais c'est une bonne idée. Bah oui, je suis ouvert. Je lui dis, je vous rappelle dans 3-4 jours pour vous donner une réponse. Ça me turlupine. Aussitôt que c'est raccroché, je prends ma guitare parce que j'aime bien pouvoir dire oui ou non, mais en ayant essayé. Et je prends ma guitare et tout de suite, ce qui vient, c'est J'ai rêvé New York, j'ai rêvé. Et après, je me dis, je vais faire une comédie musicale. Et alors que je garde ça, du parler, du chanter, des chœurs, des cuivres, comme une comédie musicale.
Voilà.
Elle est riche de tout ça parce qu'on m'a demandé une comédie musicale. Oui.
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sol. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York City sur le sol.
Monsieur Lister Young, si une bombe atomique tombait sur New York, que feriez-vous? Je briserai la vitrine de chez Tiffany et je piquerai tous les bijoux. Monsieur Grégory Corso, qu'est-ce que la puissance? Rester debout au coin d'une rue et n'attendre personne. Bonjour Monsieur Hendrix, je suis du New York Times. Salut! Moi je suis de la planète Mars. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sol. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sol.
Babylone de Chou. fumes et tu rêves, Babylone. Tu fumes trop et tu crèves, Babylone. Tu exploseras sur un graffiti de New York.
Roulant Ford,
si tu veux faire Mac.
Roulant Cadillac,
si tu veux faire Chic.
Roulant Buick,
si tu Rockefeller.
Roulant Chrysler.
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. J'ai rêvé.
Yves Simon, 1974, J'ai rêvé New York, enregistré comme les autres au studio d'Avou,
ouais,
qui vient de disparaître.
Mmh,
voilà,
oui.
Mais lieu mythique de la chanson française. Et donc deuxième ou troisième après les Gauloises, troisième très grand succès pour
ah,
le
oui.
jeune
ah,
Yves Simon.
Ah oui, oui. Hein. Puis du coup, là, je fais l'Olympia aussi, ouais. là, déjà à ce moment-là.
Le succès, la célébrité, c'est quelque chose qui vous a grisé parce que finalement, quand on commence à faire du rock à 15 ans ou à 20 ans à Nancy, c'est de ça qu'on rêve. C'est d'être reconnu par tout le monde dans la rue et à la télévision.
Il y a son poison aussi. C'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on garde secret. J'avais, disons, un ami secrétaire qui était journaliste dans un journal de rock. Et on était tellement intimes, il avait 10 ans de moins que moi. Et ma mère, donc mon père était mort, je l'ai dit. Et il n'y a qu'avec eux que je pouvais parler de l'argent.
Ah oui.
On peut pas dire à ses copains, oh, écoute, j'ai trop d'argent, c'est un problème, parce que tout le monde n'a pas d'argent ou en manque pour payer un loyer, pour aller en vacances, tout ça. Alors, c'est des trucs qu'on garde, et alors, je vous donne tout de suite un exemple. Daniel Balavoine, qui lui a eu une réussite 2-3 ans après moi, il me téléphonait tout le temps, il me dit, Yves, comment je peux résoudre, sans avoir l'air ridicule, de dire « je grane trop d'argent à mon goût ». Mais c'est vrai que c'est ça. Et puis bon, on s'y fait quand même. Puis moi, j'ai eu un raisonnement très simple. Je me dis « vaut mieux en avoir trop pas assez, c'est quand même plus confortable voilà. ».
Et être reconnu, aimé, applaudi par,
oui.
par des centaines ou des milliers de fans dans des villes où on passe et où on repart, on se retrouve tout seul à l'hôtel, puis c'est fini, il n'en restera rien.
Oui, il y a ça aussi qui est un peu tristounet.
Vous évoquez ça dans un joli texte.
Oui, dans les tournées, c'est un peu triste parce que il vient d'avoir une dose d'adrénaline aussi bien dans la salle que sur scène, que c'est très fort et on se retrouve tout seul. Alors, il y a les grands moments d'amitié avec les musiciens. Voilà, on dîne avec les musiciens et on débriefe un peu le concert, si c'était un bon concert ou pas un bon. Mais la première fois que j'ai gagné beaucoup d'argent, papa, vous l'avez dit, était cheminot, et je gagne en quelques jours plus que papa en une année. C'est ça qui m'a beaucoup troublé.
Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Bien
et
sûr.
Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on garde secret.
Après ces grands succès de 73-74, vous êtes aussi tourné, pas complètement, mais à plusieurs reprises, vers la musique ou les chansons de cinéma. Yves Simon, il y a eu évidemment Diabolomante, il y en a eu d'autres. Ça reliait d'une certaine façon deux de vos passions.
Oui, je vous l'ai dit, quand j'avais 12 ans, 13 ans, mon premier choc comme musicien de film... Je me suis pas beaucoup trompé, j'avais bon goût. Là encore, je me mémorisais parce que il y avait pas de magnétophone. C'est Maurice Jarre, le père, de Jean-Michel, et qui après est parti à Los Angeles, aux États-Unis. Il a fait des musiques, mais que j'ai adoré. Donc, et il y en a qui sont pas connues, qui ne sont pas sorties sur disque. Elles sont dans ma tête. Je me souviens même plus des films dans lesquels, mais je les avais mémorisés. Je sais encore les rejouer.
Voilà. Et puis, il faut dire aussi, alors, vous avez beaucoup, beaucoup produit de disques dans les années 70-80.
Un par an.
Un par an, ça ne s'arrêtait pas. Mmh. Mais en fait, vous étiez déjà écrivain, vous aviez déjà publié plusieurs livres, bien avant même et pendant cette période.
Oui, oui, exactement.
Et,
oui.
Puis à partir de la fin des années 80, ça s'est un peu inversé. Vous êtes devenu assez rare dans les studios d'enregistrement et beaucoup plus présent en littérature.
Oui.
C'est quoi ? C'est le fait des années qui passent, du vieillissement
le vieillissement, sans doute.
Qui va plus vers l'écriture que vers la chanson et la scène.
Après le prix Médicis, c'est ça qui a été un déclic.
C'est-à-dire pour la dérive des sentiments.
La dérive des sentiments. J'avais 47 ans quand même déjà. Et je me suis dit, bon, maintenant, quand même, j'ai plus 20 ans, ni 30 ans, ni 35. La musique, la chanson, la jeunesse, tout ça, c'est pour la jeunesse. Ma jeunesse et la jeunesse de ceux qui m'écoutent.
Vous aimez bien les vieux rockers quand on les voit réapparaître
justement,
à 70
pas trop.
Ans sur scène.
Ils sont pathétiques plutôt qu'autre chose.
Je suis assez d'accord.
Et donc, dans un premier temps, je me dis, je vais raréfier les disques. Ouais. Et puis, jusqu'à complètement couper le cordon. Et en l'an 2000, j'étais avec une fille qui est aujourd'hui éditrice dans l'édition littéraire. Et elle me dit, toi qui as beaucoup parlé des années du dernier siècle, quoi, du 20e siècle, t'as tellement raconté ce siècle-là, tu devrais faire un disque pour l'an 2000. Et j'ai fait ça, et c'est là que je me suis rendu compte, je me dis, j'ai commis une erreur, parce que écrire des romans alternés avec des disques, c'était très équilibrant dans un métier ou même voire des métiers très déséquilibrants. Donc quand j'en avais marre du monde que vous connaissez bien littéraire, oui. Je pouvais aller dans le monde de la musique où le personnel était plus jeune,
ouais,
plus
ouais,
rock'n'roll. Quoi.
Voilà. C'était une forme d'équilibre.
Oui. Et puis aussi pour la création, c'est-à-dire la musique, c'est on est avec des ingénieurs, des musiciens, alors que l'écriture, tout seul, et les deux me plaisaient. Et quand c'était trop long, la solitude de l'écriture, je me disais vivement que je fasse un disque. Quoi.
Et bien justement, dans cet album de 1999, que j'aime beaucoup, il y a une chanson qui s'appelle Intempestive, l'album. Mmh. Une chanson qui relie un petit peu les références littéraires et musicales. Je pense à Perec, ça s'appelle Je me souviens.
Ah oui. Hein oui, oui, je me souviens de Georges Perec. Mais...
C'est pas ça la question de l'écriture.
Je me souviens de Georges Perec, un olive beau joueur de go, un écrivain very high-tech. Je me souviens de la musique, du mépris, un long travelling à Chinechita. Générique. Je me souviens de Cole et Mitterrand qui se tenaient par la main, c'était à Verdun. Je me souviens d'avons enfants, de la patrie et de vos armes, etc. C'était Gainsbourg en ce temps-là. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Je me souviens qu'une fatwa a condamné Salman Rushdie parce qu'il écrit, parce qu'il écrit. Je me souviens de Jean Gabin qui dit « De beaux yeux, tu sais » et que 50 ans plus tard, une romancière lui répond « Baisse-moi ». Je me souviens de Signoret, ma voisine de la place Dauphine et que la place Blanche a mauvaise mine. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Je me souviens de Valessa, Solidarność et Sakharov, la tâche de vin de Gorbatchev. Je me souviens que l'Enola Gay est un avion qui relie à Hiroshima aux USA. Je me souviens, je t'ai rencontré, t'étais blonde comme les blés, je t'ai embarqué. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir.
On a un projet avec Alain Souchon, Yves Simon, c'est de faire un jour une émission sur les chansons qui n'ont pas marché, d'essayer de les mettre en valeur.
Oui,
oui. Pourquoi. C'est le cas de celle-ci. Hein.
Ah oui, oui, oui. J'étais persuadé que ça marcherait.
Oui.
Parce qu'il y a tous les ingrédients. Justement, je raconte rapidement la fin des années 1900, quoi, le siècle dernier. des choses qui ont marqué, Salman Rushdie, Cole et Mitterrand qui se tiennent par la main, évidemment hommage à Pérec, que on adore, j'imagine. Ouais. Ça n'a pas marché. Mais une petite anecdote sur Alain, on était ensemble chez RCA, donc j'étais le premier des trois avec Woolsey, le premier, disons, à marcher. Alain ouais. a démarré 5 ans plus tard que moi, et puis Woolsey un peu plus tard. Mais il y a une belle idée de production. Alain, il écrivait les chansons où la musique était lente. Je vous donne un exemple. Moi, l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Et un jour, on avait le même directeur artistique, il lui fait rencontrer Woolsey, et il dit à Woolsey, fais des chansons pour Alain. Et ça devient, je viens de vous lire une longue phrase là, qui fait 17 pieds, et c'est « Allô, maman, bobo
voilà, ». Voilà,
ça change tout.
Mais c'est vrai que c'est un mariage très heureux.
Oh,
hein,
formidable, formidable mariage.
En tout cas, Yves Simon, on l'a dit, vous avez ensuite, après le Prix Médicis, continué à publier régulièrement beaucoup de livres qui ont eu beaucoup de succès. Et en même temps, est-ce que en France, qui est le pays des étiquettes, vous avez senti que le chanteur-écrivain, c'était malgré tout quelque chose d'un peu compliqué dans la tête
énormément,
des gens.
Énormément,
c'est vrai.
Surtout au début, oui.
Oui.
Ah, oui.
Et de la presse peut-être aussi, et de la critique.
Le Monde, sur un livre qui s'appelle Océan, qui faisait 400 pages, écrit, je crois qu'il connaît trop bien, comme si c'était un défaut, l'air du temps par les chansons qu'il chante, un truc comme ça.
Ah oui.
Et 5 ans plus tard, l'ex-directeur du Monde, Jacques Fauvet, vous vous souvenez de lui?
Oui, oui, oui bien sûr. Oui.
Il lit Océan en poche.
Oui.
Et il est en vacances et il m'écrit, je veux que vous acceptiez mes excuses pour l'articulet que vous a donné mon ex-journal.
Ben oui.
L'articulet. Alors, quand on voit des choses comme ça, après, tout passe. Hein, mais... Et puis les prix littéraires, c'est vrai, ça a aidé le prix des libraires et puis Médicis. Oui.
C'est fini maintenant, vous êtes,
oh ben non,
vous êtes,
non,
vous êtes
non,
un
je suis bien traité.
Reconnu.
Oui, oui, oui.
En tout cas, reconnu par les lecteurs, ça c'est certain. Et donc devenu rare dans la production discographique, on l'a dit, mais aujourd'hui il y a cet album qui sort et dont on va parler dans un instant. Et puis il y a eu ce concert, ce retour à l'Olympia en 2008, et la même année aussi cette chanson avec Françoise Hardy.
Ah oui.
Racontez-nous l'histoire.
Françoise, évidemment, elle était, je l'avais dans le collimateur depuis très longtemps, mais elle a mauvais caractère. Et donc, j'hésitais à lui proposer une chanson parce que je me dis, elle est capable de dire, oh non, non, c'est de la merde, enfin, c'est rien, quoi.
Ah oui, elle est franche,
elle est,
oui, elle est comme ça.
Ah, oui, oui, c'est rien, non, non. Au début que je l'ai rencontrée, un jour, elle venait de sortir un disque, je lui dis, qu'est-ce qu'elle est bien, cette chanson-là. Oh, me parle pas, c'est la pire de mon album.
Oui, c'est ça.
Elle, elle est très retors, Françoise. Donc, j'avais très peur qu'elle me dise non. Et puis, un jour, je faisais ce dernier disque où je chante, oui. Et je rencontre une copine de Françoise, bien que je la connaisse. Je lui dis, tu ne peux pas tâter comme ça en disant, écoute, j'ai connu Yves, il a fait une chanson, c'est pour toi, pas pour toi, il aimerait la chanter avec toi. Et puis ça, c'est un jeudi, lundi, Françoise m'appelle, elle dit, je suis ravi, on chante. Puis alors, j'avais fait la voix tout seul, et puis quand je l'entends, oh, j'ai des frissons, je me dis, elle a une voix formidable. Et elle me dit, tu veux que je chante comment, une autre voix? Ben, j'ai dit, le plus simple pour toi, à l'unisson si tu veux. Mais à l'unisson, ça donne rien. Elle a fait donc une double voix magnifique et j'étais très très heureux.
Françoise Hardy, vous avez cité Gainsbourg tout à l'heure. Je sais que vous aimez Dutronc aussi. Ça a un sens pour vous, la notion de French pop?
Oui, 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 oui.
C'est une couleur,
bien
c'est
sûr,
une
ça
sophistication.
Un
c'est
peu tard pour moi,
ouais.
parce que j'aurais voulu imposer ça, comme j'allais très souvent aux États-Unis. Par exemple, au Japon, on m'appelait le Neil Young français. J'ai adoré ça. J'arrive à l'aéroport, on me dit, tu sais ce qu'il y avait dans la presse ce matin, le Neil Young français arrive. Donc j'étais plutôt flatté, parce qu'évidemment, j'aimais les trois séparés aussi, oui.
Aux fenêtres de ma vie, je regarde les jours. Que reste-t-il des amants, des bravos, des amours? Combien de ruses il fallut pour gommer un chagrin? Combien de temps il faudrait pour s'oublier enfin? Au aux fenêtres de ma vie, je vois passer le temps. Que reste-t-il des clameurs, des applaudissements? Combien de ruses il fallut pour conserver l'ivresse? Combien de temps il faudrait pour garder sa jeunesse? Quatre saisons.
Que reste-t-il des sanglots longs des violons?
Combien de ruses il fallut pour gommer un chagrin? Combien de temps il faudrait pour s'oublier enfin? Conserver l'ivresse. Combien de temps il faudrait pour garder sa jeunesse?
Françoise Hardy, Yves Simon, aux fenêtres de ma vie en 2008. C'est donc voilà un de vos derniers enregistrements, en même temps que ce concert live de l'Olympia qu'on a entendu tout à l'heure.
Exactement.
Et qui ressort aujourd'hui avec donc tout cet autre disque consacré à vos chansons, revisité par quantité de chanteurs d'aujourd'hui. Ça s'appelle d'ailleurs Générations éperdues au pluriel. Et on y trouve Christine and the Queens, on y trouve Clou, Juliette Armanet, Feu Chatterton et beaucoup d'autres. Comment ça a vu le jour, ce disque formidable?
C'est assez simple. Il y a quelques années, donc avant qu'elle ne soit connue, elle n'avait pas sorti de disque, encore pas, ni être la vedette planétaire qu'on connaît. Christine and the Queens m'envoie ma chanson Amazoniaque.
Qui date de 1983, votre version.
Ah oui, voilà. Sur un disque qui ne vient pas d'une maison de disques, donc un disque qu'on fait faire. Et elle avait écrit au stylo B, Christine and the Queens, et puis son numéro de téléphone, son portable. Et j'ai trouvé ça bien. Et au même moment, presque, ou à 2-3 mois près, sur YouTube, on me dit, tiens, il y a une fille qui chante diabolomante, toute seule à la guitare. Et c'est Soko.
Soko.
Elle chante donc tout seule dans son appartement. Elle habite Los Angeles et Paris. Et je me dis, ça fait deux chansons. Et puis encore un autre groupe qui s'appelle Lilywood on the Prick m'envoie leur premier disque qui vient de sortir. Alors, ils ont 22 ans tous les deux. Elle me dit, j'ai lu tous vos livres. Et lui, il me dit, j'ai écouté tous vos disques.
Ça fait
plaisir. J'ai trouvé ça très mignon. Oui,
c'est
oui, très
formidable.
Mignon.
Si longtemps après avoir laissé un peu la scène et l'enregistrement de côté.
Et voilà. Et donc, j'ai rencontré donc Emmanuel de Burtel, qui est le patron de ce label Because, où il y a aujourd'hui justement Soko, Christine and the Queens, qui est devenu Chris.
Ouais.
Je vous le rappelle.
Ouais.
Et moi, j'étais engagé comme chanteur, donc j'ai 3 contrats d'édition. Le contrat pour ce disque est à part aussi, puisque c'est pas moi qui chante. Et puis un contrat de chanteur, quoi.
Mais cette série de reprises de vos chansons, librement revisitées, d'ailleurs, vous avez suivi près, vous étiez aux enregistrements.
Je voulais pas qu'il y ait des fautes de goût. Et quand on a commencé, il y avait ça s'appelle un tribute, on dit, celui de téléphone qui sortait et j'entendais la radio. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mauvais.
Qu'est-ce
que c'est moins bien que l'original. Je me dis, il faut absolument que je surveille tout ce qui se passe chez ces jeunes chanteurs parce qu'on avait décidé aussi 20-30 ans. On exclut au-delà de 30 ans. Avec 2-3 exceptions, mais Christine avait 25 ans, Soko pareil quand elle a enregistré. Et je ne voulais pas qu'on dise ça de mon disque, j'aurais été humilié. J'ai suivi beaucoup de près les enregistrements.
Oui. C'est très, très réussi. Alors moi j'ai envie d'en écouter une, qu'on a évoquée d'ailleurs tout à l'heure à propos de Brassens et de vos débuts, Les Gauloises Bleues, chantée par
Clou.
Clou. Dites-nous qui est Clou.
Petite confidence inconnue, elle va sortir son premier album en septembre.
Ouais.
Et quand j'ai écouté Les Gauloises Bleues qu'on va entendre, j'ai une petite larme.
souvent de les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'aile, parfois je voyais Verlaine. Les beaux jours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Jeffersoner Plaine s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutiques à music hall, au boulevard du rock'n'roll. Les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du Clichy. Arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison.
Moi, je dis bravo Clou. Hein. Ah, c'est sans bon, hein. C'est très joli, Yves Simon, cette reprise de votre chanson Les Gauloises Bleues, qu'on trouve dans le disque Générations éperdues, qui vient de sortir. Bon, alors, on ne peut pas toutes les citer. Hein. Je sais que vous aimez beaucoup, mais vous les aimez toutes. Le Barcelone de Juliette Armanet,
oui,
par exemple.
Oui, c'est très bien aussi. Oui.
C'est une proche.
Qu'est-ce qu'elle chante bien, je ne la connaissais pas.
Non,
ah, bon, non. Pareil. Et d'ailleurs, elle a enregistré, elle était quasiment encore inconnue. Elle avait sorti un ou deux disques, on l'avait repérée, quoi. Elle était repérée dans le milieu, mais elle n'avait pas fait de succès.
Voilà, les hommages, je ne sais pas si c'est le terme vous plaît, mais à Yves Simon.
Oui, non, ça me plaît. Si vous le dites, ça me plaît.
De la jeune génération de chanteurs. Et puis vous, donc on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez écrit un livre où il est beaucoup question, donc principalement de votre père, hein,
oui.
un homme ordinaire chez oui. Neil, c'était en 2011. Oui. Et aujourd'hui, vous terminez à nouveau un livre, dans le registre autobiographique.
Oui. Hein. Pour Flammarion, cette fois, ça sort en janvier et ça s'appelle Une vie comme ça. Donc, c'est autobio.
C'est toute votre vie ?
Ben, j'ai essayé.
Oui.
Et de ne pas être trop long parce que là, je l'ai terminé. Il fait 340 pages. Je me dis, faut qu'il en fasse moins. Donc, mon seul travail en ce moment, c'est d'enlever.
Ah oui,
retirer.
C'est ouais. Pas toujours plus facile que d'ajouter.
Non,
hein.
Non, pas du tout.
Alors, en même temps, donc, ce disque qui sort et puis votre live à l'Olympia, ça vous donne pas envie, tiens, maintenant que le livre est fini, de remonter un petit peu sur scène ?
Je vais boire.
Ah, c'est pas exclu.
Je vais voir, c'est pas exclu, voilà. Je vais voir. Je fais ce bilan-là l'année prochaine, au mois de mars, avril, ou littérature, parce que quand même, c'est long d'écrire un livre, vous le savez. Faire un disque, c'est long aussi, c'est une dépense d'énergie. Je crois que je vais calculer au niveau de l'énergie, qu'est-ce qui est le plus désénergétique, ou de faire un livre ou un disque. Je pense que c'est le disque dont je vais faire un livre.
Et l'aérogramme de Los Angeles par Woodkid et Louis Garrel, toujours dans Générations éperdues.
Ils m'ont surpris, là, tous les deux. Ouais, ouais, Louis, j'y avais donné les Gauloises Bleues, justement, qu'on vient d'entendre.
Ah, vous avez un peu réparti, vous,
oui,
les chansons
bah,
aussi.
Pas toujours, parfois, mais de temps en temps, parce qu'on se connaissait. Et il m'a dit, non, c'est trop dur pour moi. J'ai réécouté tous tes albums, je veux faire l'aérogramme de Los Angeles, qui n'a pas marché du tout. Un jour, faites donc une émission sur les chansons qui n'ont pas marché. Et comme il n'avait pas de musicien, qu'il n'est pas musicien lui-même, on a eu l'idée, on se dit, il faut que quelqu'un, musicalement, soit derrière toi ou avec toi. Woodkid, c'était la bonne idée.
Et bien, c'est avec cette chanson qu'on va se quitter, Yves Simon. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de cette invitation.
Et j'espère à bientôt.
De ces collines où tu m'atteins à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express. Un océan et quelques rues de Paris 18e, tout est si loin. Je ne sais plus si c'est vrai que je t'aime. Sunset Boulevard, des Indiens nous vendent des photos. Lorraine Bacall et Hollywood avaient 30 ans de trop. Sur ces collines, près de la mer, j'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort.
Aérogramme de Los Angeles par Woodkid et Louis Garrel, une très belle chanson qui vient donc de ce disque Générations éperdues, où des chanteurs d'aujourd'hui revisitent les chansons d'Yves Simon, et puis également sur le deuxième CD, donc c'est le concert intégral live à l'Olympia d'Yves Simon il y a 10 ans, le 12 mars 2008, autant d'occasions de retrouver mon invité. En attendant la parution, il nous l'a annoncé peut-être l'hiver prochain, de son livre de souvenirs. Thank you. flâneuse, une valse interprétée par Louis Ferrari avec un très subtil accompagnement mêlant piano et cordes. Ça n'est pas si fréquent dans le répertoire d'accordéon. C'est un enregistrement de mars 1947.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis, je vous le disais au début de l'émission, je voudrais donner un petit coup de chapeau à un grand artiste qui vient de nous quitter à l'âge de 86 ans. C'est le chanteur Marc Augeret, qui était, on peut dire, un chanteur emblématique de sa génération, puisqu'il avait commencé à chanter aux terrasses de café, puis dans les cabarets de la rive gauche. Il avait été remarqué notamment par Pierre Prévert, le frère de Jacques. Il avait fait ses débuts notamment dans les premières parties de Georges Brassens. Et puis, il avait aussi donné un spectacle sur le condamné à mort de Jean avec Hélène Martin. Bref, on peut dire que c'était un chanteur engagé à sa façon, mais engagé aussi dans l'histoire, puisqu'il allait revisiter aussi bien les chansons des poètes comme Louis Aragon, que les chansons parisiennes beaucoup plus anciennes, comme celle de Bruant, et aussi beaucoup les chansons révolutionnaires. Il leur avait consacré tout un album en 68, un petit peu avant les événements. Ça s'appelait Chansons contre, des chansons contre l'ordre des choses, des chansons notamment, finalement c'est peut-être toujours d'actualité, au moins pour certains, des chansons contre tous les gouvernements.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru qu'en graisse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent des fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur paies des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Marc Augeret avec l'orchestre de Michel Villard dans cette chanson anonyme, faut plus de gouvernement, mais on l'a compris, de l'époque de Jules Ferry. Ça faisait partie de l'album Chansons contre de Marc Augeret. Marc Augeret, né en 1932 et qui vient de nous quitter le 4 juin à Semur en Auxois où il vivait.
Thank you.
ravissante mazurka extraite du ballet d'Isoline d'André Messager sous la direction de Louis Forestier. Tout cela pour vous dire avant de nous quitter qu'il est temps de réserver vos places pour aller voir Les Petites Michues d'André Messager, une œuvre très oubliée et pourtant ravissante, créée en 1897, juste avant Véronique. Il y a le même raffinement, la même jolie musique, une histoire très amusante de deux sœurs jumelles, Blanche Marie et Marie Blanche. Enfin, pas vraiment jumelles puisqu'elles viennent de parents différents, mais on a fini par les confondre. Voilà, c'est typiquement une intrigue d'opérette. Et puis ça se passe dans le quartier des Halles à Paris, qui est également à l'honneur dans cette œuvre que vous pourrez entendre sous la direction de Pierre Dumousseau par la compagnie Les Brigands, dans une mise en scène de Rémi Barcher. C'est au théâtre de l'Athénée à Paris du 19 au 29 juin prochain. Les Petites Michues d'André Messager, à ne pas rater. On va d'ailleurs écouter Le Cœur des Mariés et La Ronde des Halles au troisième acte de cette petite opérette.
Et
c'est Gisèle Desmoutiers qui chantait le rôle de Madame Michu, qui travaille donc dans les Halles. Et c'est cette version des Petites Michues, dirigée par Jules Gressier et enregistrée en 1954. Un spectacle à retrouver au théâtre de l'Athénée. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Thibaut Nassimben, Emmanuel Dupuis, réalisation Christine Amado. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. J'aurai, je vous l'ai dit, la grande joie d'accueillir Fred Mella des Compagnons de la Chanson, avec deux jeunes chanteurs des Nouveaux Compagnons, à samedi prochain sur France Musique, où vous retrouvez maintenant Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.